Nous allons à présent nous rendre à l'intersection de deux mondes a priori très éloignés l'un de l'autre. L'université d'un côté et les entreprises de l'autre. Mais à l'intersection de ces deux univers se trouvent les spin-offs. Ce sont des entreprises créées par des chercheurs ou par des professeurs pour développer et ensuite commercialiser des produits ou des services nés dans les laboratoires de recherche de nos universités. Alors la plus connue en région wallonne, vous la connaissez peut-être, c'est IBA à Louvain-la-Neuve. L'entreprise fête d'ailleurs cette année ses 40 ans. Et depuis sa naissance, des centaines d'autres spin-offs ont été créés. Avec le temps, les universités se sont professionnalisées. Elles proposent désormais un accompagnement solide aux porteurs de ces projets. La dynamique est donc bien là, mais elle doit maintenant prendre de l'ampleur, comme vous allez le découvrir dans ce reportage réalisé par Michel Gasset avec Jean-Marc Viercet.
Ici, nous sommes dans l'atelier où on fait une partie de recherche et développement et une partie de production. Donc on a un petit atelier avec une fraiseuse, une perceuse à colonne, un tour, etc. On a 5 ou 6 imprimantes 3D.
Benjamin Mertens est le CEO, le patron de LIS Medical. C'est une petite spin-off de l'ULB. Elle est installée à un jet de pierre de la gare de Waterloo. LIS Medical fabrique et commercialise la plus petite sonde endoscopique du monde. Cette sonde est équipée d'une microcaméra. Elle permet aux médecins pneumologues d'aller inspecter les poumons de leurs patients et de voir ce qu'ils n'avaient jamais vu, les endroits les plus reculés des alvéoles pulmonaires.
Ce qu'on fait ici, on a développé Iriscope, qui est la plus petite sonde endoscopique du monde.
Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un fil électrique bleu, en fait.
Si on veut, c'est un petit fil électrique bleu qui fait 1,3 mm de diamètre et qui peut aller absolument n'importe où dans le poumon. Et donc, contrairement à d'autres technologies qui sont faites pour aller dans le fond du poumon, basées sur les ultrasons, Iriscope permet de visualiser les lésions directement in situ et les caractériser et d'en comprendre la vraie nature. Donc à la base, Iriscope est né d'une synergie avec l'hôpital Erasme à Bruxelles et les équipes de pneumologues qui ont vraiment tout de suite compris dans les premiers essais qu'il y avait quelque chose à aller voir dans le fond du poumon. Et donc on a travaillé avec eux main dans les mains et maintenant on est un peu partout en Europe et de plus en plus. Et on a des partenaires en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas. Et on commence à avoir de plus en plus d'intérêt. On est parti de rien. Et maintenant, maintenant, ça marche.
Maintenant, ça marche. Et on comprend vite pourquoi en regardant une vidéo réalisée dans le poumon d'un patient.
Ça, c'est un cancer du poumon. Donc ici, on est au fond d'un poumon. Et c'est quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant. Donc maintenant, on sait que cette image, c'est dans 95% des cas, un cancer. J'ai d'autres images intéressantes ici. Voilà, ça, de nouveau, on trouve cet aspect qui est caractérisé dans la littérature comme la chair de poisson. Donc, un cancer du poumon, ça ressemble vraiment à comme un fichtique. C'est cette chair de poisson blanche qui se désagrège. Et ça, c'est très caractéristique et c'est vraiment très, très inconnu. Et c'est là où nous, on doit faire un travail pour bien caractériser ces images et apporter toutes les connaissances qu'on a.
Le succès de cette sonde endoscopique est l'aboutissement de longues années de recherche. 5 années de thèse à l'ULB, un post-doc, puis en 2018, la création de l'entreprise. Le temps long est une donnée incontournable dans la création d'une spin-off. Aïssam Jijakli en parle avec le recul de celui qui a créé 4 spin-offs depuis la fin des années 90. Professeur et responsable du laboratoire phytopathologie intégrée et urbaine à Jean Blou, Agrobiotech, Université de Liège. La petite dernière s'appelle APO. Elle a été créée en janvier 2021 à la suite de 10 années de recherche. Une petite entreprise qui développe un portefeuille de produits fongicides et herbicides basés sur des huiles essentielles.
On a sélectionné 3 huiles essentielles très intéressantes au sein du laboratoire, qui donnait des activités très intéressantes contre les mauvaises herbes. Ces huiles essentielles, on les a sélectionnées parce qu'on savait qu'au départ qu'elles n'étaient pas très chères. Donc s'il y avait une efficacité, on pouvait aller plus loin. Et on a déposé, au nom de l'université, un brevet, donc une propriété intellectuelle qui appartient à l'université. Et de là, on a commencé à démarcher regarder si des investisseurs étaient intéressés. Et ça a été le cas. Et donc, on a créé en janvier 21 la société APO pour continuer le développement de ces huiles essentielles en tant qu'herbicides et mettre en marché.
Aujourd'hui, où en est le développement de ces produits ?
Alors, depuis 2021, on a beaucoup évolué. Donc, au départ, la société comptait 5 personnes. Aujourd'hui, elle en compte 19. Et nous avons déposé les dossiers d'homologation pour avoir l'autorisation de mise en vente. Et en fait, nous sommes en train d'attendre l'autorisation aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Europe pour pouvoir vendre. Donc, on a vraiment fait toutes les étapes nécessaires pour constituer les dossiers, montrer que ce n'est pas toxique pour l'environnement, que ce n'est pas toxique pour l'être humain. Ça demande beaucoup d'argent. On a déposé les dossiers, on attend les réponses, aussi bien aux États-Unis en Europe. Et normalement, les premières ventes devraient arriver fin 26, début 27.
Direction les Hauteurs de Liège, sur le site du CHU, le centre hospitalier universitaire.
C'est notre bureau principal.
C'est là que se trouvent les bureaux et le laboratoire de LiveDrop, une spin-off de l'ULG que sa fondatrice Stéphanie Van Loo dit avoir créée un peu par hasard.
Pour ma part, j'avais donc réalisé ma thèse à l'Université de Liège dans un tout nouveau laboratoire et j'avais beaucoup aimé me débrouiller à créer des choses à partir d'une page blanche. Et je m'intéressais beaucoup à la biologie, donc j'étais en sciences de l'ingénieur. Et j'avais remarqué que ce que j'avais développé pouvait être intéressant pour la biologie. Enfin, c'est pas moi qui l'ai remarqué, c'était une évidence. Mais j'ai commencé à avoir des contacts avec les chercheurs en sciences de la vie. Et à la fin de ma thèse, l'outil que j'avais développé était intéressant. Il était encore nulle part, hein, quand on regarde par l'arrière. Et c'est plutôt une opportunité. J'ai vu un appel à projet à financement de la région Wallonne qui s'appelle First Spin-off, qui permet d'être financé comme chercheur pour transformer son activité en entreprise. Et mon superviseur de thèse me l'a suggéré. Il me dit « si tu te lançais ». Donc c'est vraiment presque un hasard, je n'y aurais jamais pensé.
Vous n'y avez jamais pensé et vous vous êtes lancé.
Tout à fait, j'ai accepté le challenge. Et là, je me suis lancé en me disant, on va voir ce que ça va donner, mais on va donner aussi les chances. Et donc j'ai été financé pendant 3 ans, presque 4 ans, pour amener la technologie développée en laboratoire en presque un produit, je dirais, en un prototype pré-commercial, en quelque chose qui puisse convaincre et en un business plan aussi.
C'est quoi le plus difficile ? C'est de se dire, par quoi vais-je commencer ? Ou bien il y a d'autres questions plus compliquées encore ?
C'est une bonne question. Effectivement, par quoi vais-je commencer ? Mais en fait, pour moi, la transition était très douce, parce que j'étais encore dans les locaux de thèse, j'étais encore dans le laboratoire avec mon superviseur, mais du jour au lendemain, c'est vrai que j'ai changé de casquette, où je n'étais plus là pour approfondir une question physique, mais plutôt pour être beaucoup plus pragmatique et analyser le marché, ce que les gens allaient avoir besoin. Donc ce qui est le plus difficile, c'est de focaliser, je dirais. Plutôt que d'ouvrir plein de portes, il faut resserrer.
LiveDrop a développé une machine pour le tri et l'analyse des cellules biologiques. Sa technologie intéresse toute une série de secteurs, centres de recherche universitaires, industrie pharma, des biotech aussi. Mais pas question de donner des noms dans ce domaine, le secret est de rigueur. Mais ce qui est certain, c'est que l'entreprise a des clients, elle génère des revenus, même s'il est encore un peu tôt pour parler d'un envol commercial. Changement de décor, on arrive à l'Université libre de Bruxelles pour rencontrer Alain Delchambre. Il est professeur à l'École polytechnique et directeur du service BIMS, Bio, Electro and Mechanical Systems. Il a co-créé plusieurs spin-offs tout au long de sa carrière. Ce n'était pourtant pas inscrit dans les étoiles, puisqu'il a commencé son parcours dans une petite entreprise, puis dans un centre de recherche lié à l'industrie des fabrications métalliques. Un pied dans le monde de l'entreprise, un pied dans le monde académique.
C'est seulement après, en 94, que je suis revenu à l'université, mais en ayant toujours à l'idée que si je voulais faire des projets de recherche, ben je voulais que ces projets de recherche ne finissent pas en thèse doctorat qu'on range dans une armoire, mais qu'on puisse faire des produits, effectivement, qui soient exploitables et commercialisables.
Retour à l'ULB, donc, en 1994. Il faudra beaucoup de temps pour qu'un premier projet de recherche se transforme en spin-off à partir de ce moment-là ?
Bien, j'étais dans le domaine de l'optimisation des chaînes de production à l'époque, et c'était le début des logiciels déjà orientés intelligence artificielle. Et donc, avec un des chercheurs, on a créé une première spin-off en 98, mais orienté logiciel. Donc, c'était des logiciels d'optimisation de lignes de production pour l'industrie automobile.
Et qu'est-ce qu'il est advenu de cette spin-off ?
Mais il est toujours actif, donc le chercheur continue toujours à développer des logiciels orientés vers l'optimisation de la production. Mais c'est ma recherche qui a évolué ici. Comme j'avais un background plutôt d'électromécanicien, je me suis dit, le domaine logiciel, c'est pas exactement mon domaine de prédilection. Je préfère faire des produits qui sont destinés à être manufacturés. Et je me suis assez passionné pour la miniaturisation des produits et des composants. Et en ayant essayé de faire des composants miniaturisés, donc des petits mécanismes les plus petits possibles, je me suis demandé, mais à quoi ça peut bien servir? Et donc là, le domaine médical s'est imposé à moi assez rapidement. Et puis, il y a eu une rencontre en 2003 avec le directeur du service de gastroentérologie de l'hôpital Erasme, qui cherchait justement des ingénieurs qui pouvaient faire des mini-mécanismes pour le monde médical. Et c'est là que l'aventure a démarré pour les spin-offs dans le domaine des dispositifs médicaux. Et il y en a eu quatre qui ont été créés.
Créer une petite entreprise est toujours une aventure, avec son lot de difficultés, d'incertitudes, parfois d'angoisse aussi. Mais quand cette petite entreprise se fonde sur les résultats d'une recherche universitaire, il y a une difficulté supplémentaire, le rôle du chercheur dans l'entreprise. Va-t-il en être le patron ? Va-t-il en être le responsable technologique ? Va-t-il combiner les rôles ? Et si oui, pendant combien de temps va-t-il abandonner une carrière académique prometteuse ? Ces questions, nos témoins se les sont forcément posées, mais leurs réponses ne sont pas les mêmes. Aïssam Jijakli, par exemple, préfère quitter la gestion quotidienne de la spin-off une fois que celle-ci est prête pour son envol commercial. Il l'a fait aussi avec sa dernière création, la société APO.
Lorsqu'on a créé la société et qu'elle était encore petite, j'ai exercé les fonctions de CEO, donc de directeur de l'entreprise. Je l'ai fait pendant à peu près 3 ans, et voyant que les dossiers d'homologation qui demandaient justement cette R&D pointue étaient terminés et qu'il était temps de passer à la commercialisation, je me suis dit que ce n'était plus mon rôle. Je suis d'abord et avant tout un chercheur, et donc le nouveau CEO a une fibre beaucoup plus commerciale que moi.
Et donc vous continuez à suivre l'entreprise en y étant présent, mais d'un petit peu plus loin, pour aussi conserver votre métier de base, qui est celui de chercheur et d'enseignant.
Oui, tout à fait. Donc, je travaille à l'université. Mon travail principal est à l'université. Et ma passion, c'est de chercher, d'innover, de trouver. Et ma passion va jusqu'à le transfert et d'accompagner un petit peu ces découvertes vers le monde de l'entreprise.
Pour Stéphanie Van Loo, la carrière académique ne faisait vraiment pas partie du plan. Elle a choisi de se consacrer pleinement à son entreprise. Elle cumule même deux fonctions, administrateur délégué, CEO, et CTO, responsable technologique.
Je dois dire que je n'ai jamais peur de relever des challenges. Et je ne pense pas que je m'y attendais, mais j'avais envie d'essayer. Et j'ai grandi vraiment très progressivement. Mais j'aime toujours beaucoup la technique. Donc actuellement, je joue quand même toujours aussi le rôle de la technique. Mais je n'aime pas du tout envie de lâcher le bébé. Et je pense que ça se passe bien pour le moment. J'aime beaucoup mener l'équipe et mener, on va dire, le business. Donc là, je m'y retrouve bien, mais ce n'est pas dit que je resterai CEO toute ma vie. Ça ne dépend pas que de moi non plus.
Parce que là, vous êtes CEO de l'entreprise, la directrice générale, administrateur délégué, et CTO, la chief technical officer, la responsable technique. C'est les deux casquettes en réalité.
J'avoue, pour le moment, j'ai toujours cette deuxième casquette, mais vraiment, mon équipe a grandi. Je me repose énormément sur toute l'équipe maintenant. On a des personnes avec des profils assez variés, hein, comme je disais, un ingénieur, enfin plusieurs ingénieurs, biologistes, informaticiens, production, admin, sales aussi. Donc, à mon avis, cette casquette double, elle va rapidement. Enfin, voilà, j'ai toujours une vue de la technique, c'est pour ça. Et c'est aussi vis-à-vis des prospects, hein, que je dis CTO, comme ça, quand je leur parle, ils savent que je sais quand même de quoi je parle. C'est plus vis-à-vis de l'extérieur que de l'intérieur. que j'aime bien garder la casquette.
Benjamin Mertens, lui, a fait le choix d'être entrepreneur à 100%. Il se concentre désormais surtout sur la direction de la société, son développement, sa stratégie.
Quand j'ai créé l'entreprise, je venais de finir 2 ans à Solvay en cours du soir. Donc je savais que j'avais envie d'être CEO. Et donc j'ai surtout cherché un CTO qui était plus compétent que moi techniquement, ce qui a permis de compléter mes compétences techniques, qui étaient au départ du projet effectivement important d'avoir une belle complémentarité technique. Aujourd'hui, il y a un CTO qui est beaucoup plus compétent que moi, largement, dans toutes les compétences techniques. Et moi, ma force, c'est plutôt de se dire, OK, dans 1 an, dans 3 ans, c'est là qu'on sera. Et c'est plutôt d'avoir cet esprit de réflexion sur ce qui va se passer demain. C'est plutôt ça. Aujourd'hui, la fonction du CEO, chercher les financements et voir ce qui va se passer demain, c'est ça mon travail.
Voilà. Et aller voir les clients.
Et aller voir les clients, bien sûr. Le meilleur vendeur, ça reste quand même le porteur du projet initial. Il y a les tripes, et pour créer la confiance initiale, parler avec les tripes, ça change tout. Ça change tout, vraiment.
Alain Delchambre, lui, insiste sur l'importance de ses choix parce que, dit-il, la qualité du management d'une spin-off est une des 3 conditions essentielles à sa réussite.
Pour faire une bonne spin-off, je dirais, il y a 3 choses. Il faut d'abord un bon produit, donc un produit qui est clairement innovant et qui répond à un besoin. Il faut un marché, mais il faut aussi surtout une bonne équipe. Et je dirais que c'est peut-être là que la difficulté, enfin moi je vois la plus grande difficulté, c'est que le chercheur, lui, il est très bon d'un point de vue technique, il n'est pas toujours très bon dans le sens du développement de l'entreprise.
La réalité est implacable, mal gérée, une spin-off risque tout simplement de disparaître. Les universités jouent un rôle essentiel dans l'éclosion des spin-offs en offrant aux chercheurs un accompagnement multidisciplinaire et le plus souvent les premiers financements. Pour comprendre pourquoi la création de spin-off est devenue une priorité pour nos universités, direction l'Université de Liège, elle jouit d'une solide réputation en la matière.
Michel Moutchen, vice-recteur recherche de l'Université de Liège.
Didier Mativi, directeur de la recherche et de l'innovation.
Alors, d'où vient cet intérêt marqué de l'Université de Liège pour les spin-offs ? Un phénomène assez ancien. Quelles en sont les grandes lignes, au fond ?
Eh bien, c'est permettre à tout ce que produit la recherche de notre université, bah, malgré tout, d'avoir une valorisation sociétale, de diverses façons, évidemment. Probablement que l'histoire de l'Université de Liège, elle est intimement liée aux industries de la région liégeoise, et peut-être est-ce pour cela que notre université y est sensible depuis très longtemps. Mais il est clair que dans d'autres universités, ce flux continu, ce continuum entre la recherche fondamentale et son application sociale, c'est quelque chose de vital. Le flux ne doit pas s'arrêter.
Peut-être en complément, il y a une historique à l'Université de Liège. Depuis 25 ans, il avait été décidé d'investir justement sur la création de spin-off et ce transfert de technologie, de la recherche fondamentale puis appliquée vers la société finalement. Et l'Université de Liège a été pionnière en créant une structure en fait dédiée à cette activité en fait. Et c'est ça qui explique peut-être aussi de l'historique en termes de spin-off de l'université.
Et pourtant, a priori, on se dit qu'il n'est pas naturel, spontanément naturel pour l'universitaire de créer une entreprise sur la base des résultats de sa recherche. Quels ont été les déclencheurs qui peuvent expliquer cette croissance de plus en plus importante, en fait ?
Je crois qu'indiscutablement, il y a une sensibilisation qui est en train de se mettre en place de façon mondiale. Et puis, je pense que les besoins sociétaux sont de plus en plus importants dans toute une série de domaines, que ce soit la durabilité. Bon, il y a toute une série de secteurs où il y a réellement un besoin aigu de la science que peut apporter les universités. Et les mentalités changent. Je pense qu'il y a quelques années d'ici, c'était quelque chose qui était considéré comme suspect quand un académique entrait dans l'autre monde. Ça l'est de moins en moins.
Le regard du monde universitaire, du monde académique sur la commercialisation, au fond, des résultats d'une recherche, ce regard a changé ?
Je pense. Le cliché, c'est vraiment de dire il ne faut pas marchandiser la recherche, etc. Ou de dire que ne peut aboutir à la création d'une spin-off qu'une recherche qui, au départ, est une recherche non créative, je dirais, non basée sur la curiosité. Mais tout ça, c'est des clichés. On voit en fait que beaucoup de recherches extrêmement fécondes en termes de valorisation sont des recherches qui, au départ, étaient de recherches très fondamentales, qui n'avaient pas d'objectif de valorisation. Ça, je crois que c'est un message très, très fort. C'est de dire qu'une recherche de qualité, même très fondamentale, peut toujours à certains moments être génératrice de valorisation et de spin-off.
Pour aider les chercheurs à franchir le cap, à créer leur petite entreprise, l'université a mis en place un accompagnement très étendu qui en réalité commence très tôt, au cœur même des laboratoires de recherche. Didier Mativi, directeur de la recherche et de l'innovation.
Comment est-ce qu'on fait émerger une spin-off? Finalement, c'est de détecter ce qui a potentiel de marché, c'est d'accompagner finalement le processus, de maturer la technologie pour qu'enfin on puisse créer, sur base d'une propriété intellectuelle que nous avons, je dirais, blindée, créer une spin-off qui a du sens pour la société et pour l'université.
Cette propriété intellectuelle, elle revient à l'université ou bien elle revient aux chercheurs ou aux deux? Comment est-ce que ça fonctionne concrètement?
Ça fonctionne de la même manière pour toutes les universités de Belgique francophone. En fait, il faut savoir que tout résultat de recherche qui est généré au départ de l'université appartient à l'université. Maintenant, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour permettre la redistribution, en fait, de la valeur ajoutée qui est créée entre les inventeurs, qui sont souvent les personnes du labo, le labo lui-même et l'université à part égale. Donc c'est un tiers, un tiers, un tiers, c'est la règle en Belgique francophone.
Grosso modo, le service qui s'occupe de cette valorisation des résultats de la recherche ici à l'Université de Liège comprend combien de personnes et quelles sont finalement leurs activités essentielles au jour le jour?
Alors ici à l'Université de Liège, donc les personnes vraiment qui sont en charge de cette valorisation, c'est plus ou moins 25 personnes, sachant qu'on a aussi des personnes par exemple qui s'occupent du montage de projets et qui parfois peut être la base finalement d'une valorisation. Alors leurs activités, c'est d'être dans les labos, de discuter avec le personnel du labo, de voir ce qui peut être valorisé. D'autres personnes sont en charge vraiment d'analyser ce qui peut être breveté ou pas breveté. Et enfin, d'autres sont en charge de procéder vraiment à la licence, donc au transfert de technologies de manière très pointue, puisque on travaille avec des technologies, il faut savoir ce qu'on transfère, à qui on le transfère et à quelles conditions.
Précision importante de Didier Mativi, la création d'une spin-off est a priori ouverte à tous les chercheurs, du moins dans une certaine mesure.
Nous, voilà, on est l'administration de la recherche et donc et de l'innovation, et quelque part, on a une obligation d'aider tous les chercheurs, peu importe leur origine, leur potentiel de rentabilité. Donc on est là pour essayer de voir ce qui est faisable avec eux. Parfois, on le des conseils de le faire, mais ils ont une liberté et nous les accompagnerons, je dirais, jusqu'au bout par rapport à ça. Maintenant, avec l'expérience et le recul qu'on a, on peut aussi conseiller au mieux par rapport à des activités. Et certaines activités sont beaucoup plus intéressantes à garder au sein d'un service, des activités ponctuelles de service aux entreprises, etc. Puis à certains moments, ça a un avantage de les transférer vers une spin-off.
Oui, et au niveau donc du conseil de la recherche,
Michel Moutchen, vice-recteur à la recherche ULG.
Chaque université a un conseil de la recherche avec des financements disponibles. Nous avons des crédits dits de valorisation avec un jury de scientifiques, donc c'est trois membres de chaque secteur, sciences humaines, sciences de la santé, sciences et techniques, qui vont évaluer avec l'aide des personnes de chez RISE qui sont les valorisateurs, quels sont les projets qui vont pouvoir bénéficier de ces financements pour avancer éventuellement jusqu'au stade de la spin-off.
Au fil du temps, le soutien des universités à la création de spin-off s'est professionnalisé. Dans des domaines aussi importants que la protection de la propriété intellectuelle, le dépôt de brevets, l'aide à la création de l'entreprise, l'aide au financement. Dans l'absolu, il est parfois difficile évidemment de trouver des investisseurs. Ça reste un sujet, même s'il y a des périodes plus compliquées que d'autres. Reste une question clé, les universités peuvent-elles faire plus et mieux en termes de spin-off pour nourrir la croissance économique? Direction Louvain-la-Neuve pour en discuter avec Pierre Mottet. Ces deux casquettes principales en font un excellent interlocuteur. Il est à la fois président d'ACT, l'organisation qui chapeaute le patronat wallon, et président d'IBEA, le leader mondial de la protonthérapie pour le traitement du cancer. Une société que certains décrivent parfois comme la spin-off wallonne qui a réussi, ce qui suscite chez lui des sentiments, disons, mitigés.
Tout à fait. Aujourd'hui, au bout de 40 ans, on est coté en bourse, on fait à peu près un demi-milliard de chiffre d'affaires, on continue à croître, une croissance à deux chiffres, dans des métiers qui sont fondamentaux, le traitement du cancer, le diagnostic du cancer. Donc, beaucoup de capacité d'entraîner des gens avec nous sur le sujet. Après, ça reste quand même un défi de tous les jours aussi. Mais on a eu probablement aussi la chance, parfois je me rends compte, la chance d'avoir démarré dans un métier où on devait être présent dans le monde entier. Le marché était trop petit par unité que pour être juste en Belgique ou juste en Europe, donc on a dû se lancer immédiatement dans le monde entier. L'envers de la médaille, c'est pas normal qu'il n'y ait pas plus d'entreprises comme nous aujourd'hui en Wallonie, et c'est une chose qui continue à m'interpeller, moi. C'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de spin-off? Alors, vous avez d'autres entreprises qui ont un beau succès, vous avez les Odoux quand même. Un certain nombre, d'ailleurs, ont été rachetés aussi, peut-être un peu prématurément. Donc ça, je reviens à la question de comment est-ce qu'on fait pour que l'ancrage perdure. Mais le fait qu'on soit visible comme ce succès-là, c'est aussi l'illustration qu'il n'y a pas assez d'entreprises comme nous.
Et pourtant, dit-il, nous disposons d'une recherche scientifique d'excellent niveau, mais la valorisation de cette recherche en création d'entreprises est insuffisante.
Ça reste un parcours du combattant. On n'en a pas assez, hein, c'est clair. Je pense qu'on a vu des chiffres disant que l'ensemble des spin-offs de Wallonie, pour l'instant, c'est à peu près autant que ce que la KUL crée chaque année. Donc on doit en avoir certainement plus, mais il ne faut pas être obsédé par le nombre de spin-offs. Ce qu'il faut, c'est des spin-offs qui perdurent dans le temps, qui créent de l'emploi et qui créent de la prospérité et qui gardent cette place dans la durée ici en Belgique.
Qu'est-ce qui coince? Est-ce que c'est la culture universitaire qui n'est pas toujours nécessairement compatible avec la création d'une entreprise commerciale où on va faire de l'argent?
Je pense que c'est un point assez fondamental. Hein. J'ai plaidé plusieurs fois pour une révolution culturelle en Wallonie en toute généralité, et c'est probablement encore plus vrai dans les universités. Quand je parle de révolution culturelle, ce n'est pas qu'à l'université, c'est que le succès économique en Flandre n'est pas valorisé de la même manière qu'en Wallonie, pour peu qu'on puisse jamais dire que le succès économique en Wallonie soit valorisé par quelqu'un.
Et nous n'avons pas vraiment le choix. Pour maintenir notre prospérité, dit-il, nous avons besoin de plus d'entreprises structurantes. Elles ne naîtront pas nécessairement dans les laboratoires de nos universités, mais il y a là un potentiel important à exploiter. Encore faut-il donner envie aux jeunes de devenir entrepreneurs, de se lancer, de réussir, qu'ils commencent leur carrière dans un laboratoire ou pas.